Bien, pour cette dernière partie de la journée, donc j'ai le plaisir de vous présenter Peter Stokes, qui va dans les travaux sur les écritures anglaises, anglo-saxonnes du Moyen-Âge, en particulier du XIe siècle, sont connues en particulier en raison des développements techniques auxquels ils ont donné lieu, puisque Peter Stokes est l'homme qui a créé Digipal, qui est maintenant bien connu dans le monde des paléographes. Qui est donc un système numérique hein, d'analyse et de représentation des données paléographiques, qui a beaucoup essaimé hein, depuis qu'il l'a appliqué à son propre domaine, puisque maintenant il y a toutes sortes d'autres projets sur des domaines et des écritures et des époques très variées, hein, et même au-delà de l'écriture, des projets d'histoire de l'art, qui s'appuient sur cette infrastructure. Et par la même occasion, il a beaucoup réfléchi à tout ce qui concerne les grilles d'analyse hein, et la nomenclature des éléments de l'écriture. Et donc cette compétence dans la paléographie numérique, comme on l'appelle maintenant, a justifié que nous l'élisions à l'École pratique des hautes études tout récemment pour une nouvelle chaire d'humanité numérique, où il commencera donc son enseignement à la rentrée prochaine. Et donc ceux d'entre vous qui le souhaitent pourront le voir toutes les semaines à l'École pratique des hautes études sur ce genre de sujet. Et aujourd'hui, donc, il va nous parler donc, précisément hein, du domaine de la minuscule anglo-saxonne dans ses rapports avec d'autres formes d'écriture d'origine continentale, disons, hein, donc l'interférence entre les écritures propres aux îles britanniques et les écritures importées depuis le continent, et tout cela donc au XIe siècle. Merci.
On commence comme ça. Merci d'avoir m'invité. Je m'excuse à l'avance des erreurs linguistiques que j'ai fait faire sans aucun doute, mais j'espère que tout le monde peut me comprendre au moins. Sinon, dites-moi, je peux essayer. Et je vais parler aujourd'hui de la polygraphisme relatif, selon Petrucci, c'est-à-dire les différentes écritures pour le même alphabet, le même système d'écriture, en quelque sens, même si la langue est différente en ce cas. Nous avons parlé tout à l'heure des épreuves dans l'écriture, et une question qui m'intéresse beaucoup est comment on peut avoir montré les épreuves de des écritures différentes, des alphabets différents, parce que quand quelqu'un écrit avec les styles, les peines, etc., différents, c'est très, très difficile de trouver une manière de faire la comparaison entre les formes. Donc, j'ai essayé de trouver quelque façon numérique avec le logiciel les utiles pour faire cette comparaison, que je parlerai un petit peu. Je pense que j'ai une vingtaine de minutes, quelque chose comme ça, pour plus ou moins. Je pourrais aussi faire une démonstration de logiciel s'il y a du temps après. C'est pour ça que j'utilise mon ordinateur. Bon, pour la paléographie anglaise du XIe siècle, je donne tout d'abord un petit résumé du système insulaire, par exemple. Est-ce que les scribes d'Irlande et des îles britanniques, ils utilisaient leur propre système d'écriture, le système d'écriture insulaire, Insular Script System, on dit en anglais. Il y avait des niveaux d'écriture différents, des écritures, le half-uncial, le demi-uncial, le plus cursif, comme ceci. Mais ce système, il était utilisé par les Irlandais, les Anglo-Saxons, les pays de Galles, etc. Mais dès la deuxième moitié du IXe siècle, avec les attaques de Vikings de Danois en Angleterre, ils ont commencé à diverger des écritures, des styles d'écriture. Donc, on a un style anglais, un style anglo-saxon, dès la deuxième moitié, plus ou moins, du IXe siècle. Donc, en Angleterre, environ 1960, plus ou moins, ce style anglais devient le style carré, le English Anglo-Saxon Square Minuscule, on dit. Mais les réformateurs bénédictins, ils introduisaient la minuscule Caroline dès les années 1960. Et dès les années 1990, les scribes utilisaient la minuscule Caroline pour écrire en latin. Ils utilisaient aussi la minuscule indigène, la minuscule anglo-saxon, pour écrire en anglais. Donc les mêmes scribes, ils écrivaient avec les écritures différentes selon la langue. Évidemment, il y a l'interférence, l'interaction entre les écritures et en même temps l'écriture indigène, l'écriture vernaculaire, peut-être quand c'est échangé. Au début, la minuscule vernaculaire était éloignée, les ampéléastes étaient beaucoup plus loin, les formes sont éloignées. Et après, on commence à voir l'influence de la Caroline en plusieurs étapes. Moi, j'ai dit English vernacular minuscule, on peut discuter de questions de terminologie. On voit parfois ce insular minuscule encore. Mais pour moi, insular minuscule, ce n'est pas juste parce que, comme je viens de dire, en Irlande, en Pays de Galles, etc., l'écriture était différente. Donc moi, je dirais English ou Anglo-Saxon, peut-être vernacular, parce qu'il était utilisé pour l'anglais, le vernaculaire, et minuscule, évidemment, parce que c'est minuscule. Ok, les différences entre la Caroline minuscule, la minuscule Caroline et la minuscule vernaculaire. On prend un exemple comme ceci, de deuxième moitié du Xe siècle. On peut voir un manuscrit, un texte bilingue, en latin et anglais. En fait, c'est la règle bénédictine. On peut voir, par exemple, la forme de A, du A différent, le Caroline, un peu plus arrondi pour le vernaculaire. Il y a des lettres avec le allographe, la forme de lettres différente. Le style, c'est plus ou moins le même. Les traces, les formes de pied, de haste, de hampe, etc., sont plus ou moins les mêmes. Mais la forme, l'allographe, sont visiblement différents selon la langue. Donc, le D, aussi le G, c'est la forme Caroline, plus ou moins, pour le latin. Et cette forme ici, pour le vernaculaire. Peut-être que vous connaissez que la lettre yog dans l'anglais moyen, ça devient de cette forme, cette forme vernaculaire insulaire d'origine, pour les écritures. Les H aussi, un peu plus petite la différence, mais on peut voir le pied ici. J'imagine ceci, voilà. Comme ça, pour la H en Caroline, c'est plutôt comme ça. On peut voir des autres exemples. Et encore le R, comme ça, pour la Caroline, plus ou moins comme nous écrivons aujourd'hui, mais une forme insulaire d'origine, une forme vernaculaire, comme ça. C'est très très bien fait, change toujours le S, encore comme ça, pour le vernaculaire, peut-être comme ça, ou un peu plus haut, plus éloigné, ceci. Le F, je n'ai pas trouvé dans le latin, mais le F vernaculaire, c'est plus ou moins comme le S et le R, et en latin, c'est plus ou moins comme le S ici, mais avec un long trace, comme ça. Donc il y a évidemment le même scribe qui utilisait les allographes différents ici selon la langue. Et comme vous pouvez imaginer, vous commencez d'avoir des références entre les écritures différentes. Parce que cette question que Judith vient de dire de connaissance, d'apprentissage, d'influence, de traces et de formes. Donc, les étapes de la minuscule vernaculaire, moi je dirais qu'il y a la minuscule carrée, le English square, Anglo-Saxon square minuscule du Xe siècle, de premier moitié, qu'ils utilisaient pour le latin et pour l'anglais en même temps, c'est la même écriture. Mais dès le début du XIe siècle, la fin du Xe siècle, c'était une écriture plus haute, plus éloignée. Moi, je pense peut-être que c'est l'influence de Chartres, ou sinon de gloses, de notes ajoutées, de manuscrits. J'en parlerai bientôt. Après, le moyen du XIe siècle devient plus arrondi. C'est assez évident, je pense, que c'est l'influence de la Caroline. Les Carolines anglaises, les Carolines anglo-saxons, ils étaient très, très arrondis. Et après la conquête normande, ils deviennent plus pointus. C'est le début de proto-gothique, le début d'origine de l'écriture gothique. Bon, pour la minuscule éloignée, c'est un échantillon ici. On peut voir les ampelléas sont encore très élongées, très fines. Les traces sont très fines, les formes sont c'est plus ou moins vite. Je pense que c'est pas très formel, pas très haut niveau, mais quand même c'est bien fait, et bien séparé. Il y a cette forme très distinctive, je pense, très 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 drôle peut-être. C'est pas du tout comme on écrivait en latin pour cette période. Je viens de dire que peut-être il vient de Chartres anglais-saxon. Il était écrit comme ça. Cet exemple, c'est de. C'est moitié moyen du Xe siècle. Et les Chartres anglo-saxons, il était bilingue, dans le sens que le texte était en latin. Mais il était aussi le texte en anglais qui décrivait le lieu. On suit le fleuve jusqu'à l'arbre grand, on tourne au nord pour suivre la rue, etc. Ça, c'était écrit en anglais ici. Et visiblement, le fond d'écriture ici, on peut zoomer un peu, les lettres, les allographes ici sont les mêmes. Donc, il y a le front de A, du A ici, de R. Comme ça, c'est les R ancillaires, les R vernaculaires, mais c'était utilisé dans le latin, parce que ça, si c'est le minuscule carré, le square minuscule, avec les S comme ça. Donc, le front, les allographes sont les mêmes, mais les proportions, les ampléastes sont tellement différentes. Pourquoi? C'est une bonne question. Je ne sais pas complètement. Peut-être c'est pour distinguer les langues, j'imagine, ou changer les langues. Aussi peut-être parce que les glosses sont écrites comme ça, peut-être pour écrire une écriture plus petite, c'est plus facile de lire comme ça, c'est difficile de dire, mais pour les Chartres, ils étaient écrits comme ça. Donc, au début du XIe siècle encore, peut-être cette forme-ci, cette écriture ici, il était influencé, il prend les proportions, l'éloignement du chat forme ici, parce que le modèle d'écriture en anglais de cette période était the boundary clauses, on dit en anglais. Peut-être, mais c'est encore difficile à dire. Bon, mais au début du XIe siècle, pardon, je passe ici, c'est un autre échantillon, un autre exemple d'écriture vernaculaire au début, plus ou moins, du XIe siècle. C'est plus ou moins 1020, peut-être. Il y a encore les ampelléas comme ça, mais les cours de lettres, les formes de lettres ici sont plus arrondi, je dirais. Ça, c'est un peu plus proche aux formes de latin qu'on voit. Parce qu'au moyen du XIe siècle, la minuscule vernaculaire était vraiment plus arrondie. Les formes sont presque cercles. Et les ampelléas sont un peu plus normaux. moins élongée. Et si on prend l'écriture latine, typique, le textbook, le fond classique de Caroline anglo-saxon du Xe siècle, on peut voir encore les formes arrondies comme ça. Donc, je pense que quand les scribes écrivaient dans le latin et l'anglais en même temps, les deux sont approchés un peu, sont plus proches, avec les proportions, l'arrondissement, etc. Ok, mais on peut penser des questions de la méthodologie et des épreuves encore, et comment est-ce que l'échange, quand ils ont commencé, comment sont les influences. On peut dire, je pense, deux formes d'influence différentes. Le plus facile, peut-être, l'influence allographique, on peut dire, c'est-à-dire quand on écrit, par exemple, un texte comme celle-ci, en anglais, mais avec les mots en latin, en principe, ils doivent changer, ils doivent utiliser le R en latin, en caroline, et en anglais, le R vernaculaire. Mais, visiblement, parfois, ils ont utilisé l'autre forme. Et ça, c'est assez évident quand on change entre les langues, entre les cultures. Il est très difficile de séparer les formes. Il a fait assez bien ici, mais il y a des exemples comme il fait un mélange entre les écritures parce que c'est très difficile, je pense. Plutôt pour les grammaires latins écrits en anglais, il y a toujours les mots en anglais, en latin, et on change les langues toujours. Donc, en principe, il faut changer les allographes aussi. Des autres exemples ici, ceci il est écrit en anglais, il utilisait la forme vernaculaire même pour le texte, plus ou moins le texte en latin. Ici ils ont utilisé le S, Caroline, mais le G, le A, le H, G encore, ils sont tous la forme vernaculaire. Je me demande encore les questions de l'apprentissage. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être il a appris d'écrire en anglais et puis en latin, peut-être. Peut-être parce qu'il écrit plutôt en anglais pour ce texte, donc il a utilisé le fond, il est habitué d'écrire avec les allographes vernaculaires plutôt que celui de Caroline. C'est encore difficile à dire. On peut dire qu'ils commencent d'utiliser de plus en plus la forme caroline pour l'écriture vernaculaire. Donc ici, en principe, ce manuscrit est daté au moyen du XIe siècle. Je commence à penser peut-être c'est un peu plus tard, parce qu'ils utilisent toujours l'art caroline pour l'écriture anglais vernaculaire. Et ça continue jusqu'au IIe siècle encore, ils utilisent la forme caroline de plus en plus. Ils commencent avec le A, après ici aussi on a le H, caroline, et les autres lettres sont le S, le A, etc. Donc il y a toujours ce rapprochement entre la caroline, minuscule caroline et la minuscule vernaculaire. Ok, mais je reviens aussi encore de cette question de preuve, de logiciel et des outils numériques, comment on peut faire une analyse un peu plus profonde pour ces questions de forme, des allographes et de différences stylistiques. Comme Marc a dit, j'ai créé, moi et mon équipe, King's College de Londres, nous avons créé cette base de données pour les écritures différentes. Nous avons l'utilisé pour l'hébreu, le latin, l'anglais et plusieurs autres. Et cette site ici, ce site Digipal, il est disponible maintenant. C'est pour l'écriture vernaculaire d'Angleterre du XIe siècle. On peut l'interroger pour trouver les formes, par exemple, toutes les formes de A caroline, utilisé pour contexte vernaculaire pour voir les dates, les scribes, combien de fois ils écrivent, etc. Mais comme ça, c'est difficile de comprendre. Donc, j'ai essayé de faire des visualisations de manière de communiquer les formes, les dates, etc. C'est difficile, mais j'ai essayé avec quelque chose comme ça. Donc, chaque ligne ici, il montre à main un échantillon d'écriture. Et le problème est que la datation des écritures, c'est très difficile. Donc, j'ai mis ce fond comme ça pour indiquer plus ou moins cet échantillon était écrit plus ou moins de 1000 ans, de deuxième quart, de moyenne, etc. Donc, ça donne un sens général de la datation des échantillons avec le A Caroline dans la minuscule vernaculaire. Et on peut voir que plus ou moins, dans la deuxième moitié du XIe siècle, il l'utilisait de plus en plus, c'est vrai. C'est vrai aussi qu'il l'utilisait assez dans la première moitié, donc peut-être le manuel de la palégraphie anglaise, il faut le changer un petit peu, parce qu'ils disent qu'il n'y a que la fin du XIe siècle qu'il les utilisait. Donc c'est ça, c'est... Les lignes ici, ça c'est le 1000 ans, 1050, 1100, pour donner un sens. On peut faire une comparaison entre le A Caroline et le A vernaculaire, comme ici. C'est pas si différent, je dirais, avec la datation. Peut-être un peu plus souvent dans le deuxième moitié, mais c'est pas très évident. Il y a toujours cette question de big data, comme on dit, de distant reading, de données pour contrôler ce qu'ils disent dans le manuel de la paléographie. C'est un peu plus compliqué peut-être en pratique. Notre exemple, j'ai parlé d'influence allographique, mais on peut parler aussi d'influence stylistique, comme Judith et les autres, comme ceci par exemple. C'est Catulier du XIe siècle encore. Il y a toujours cette forme-ci, mais aussi pour le latin. Donc, les allographes sont différents, le R, le A, etc. Mais les éléments de style, j'utilise le terme de Malcolm Parks, the style, elements of style, ils sont vraiment de vernaculaire utilisé pour le latin. Je dis vernaculaire, mais il y a aussi les chartes de impériales, de pape, etc., qui sont très très proches, je dirais, dans le style Elements of Style encore, le forum. Donc peut-être ils ont utilisé le forum des chartes, mais c'est pas évident, je pense. Je pense encore ce que Judith vient de dire. Sinon, par rapport à l'apprentissage, est-ce que cette rive ici n'est pas, on pense qu'il est anglo-saxon, donc comment écrire comme ça sans l'apprentissage à Cologne, je ne sais pas, c'est pas évident, je dirais. On peut trouver des autres allographes comme ceci, qui ressemble encore les formes des chartes, mais ils sont utilisés pour le vernaculaire encore, pas pour le latin. Il me semble un peu étrange. Comme ceci, par exemple, le S bouclé, comme ça, pour une glose en anglais. Ce n'est pas du tout évident pourquoi on utilise un allographe dans les chartes pour les gloses en anglais. C'est une question, je ne sais pas. Les éléments de style encore, on peut voir ici les formes arrondies encore, avec les impellés éloignés encore. Mais ici, le scribe, il utilisait les formes différentes pour l'anglais et pour le latin. Donc il n'y a que les allographes carolines, mais aussi les éléments du style vernaculaire peut-être caroline. Donc c'est plus compliqué, mais cette scribe ici, Yadvi Bassan, il était très, très bien, il a créé toutes les règles paléographiques, il a distingué très clairement entre le latin et l'anglais. Donc on peut poser des questions pour faire des comparaisons, parce que quand on fait des comparaisons entre le vernaculaire et le caroline, on peut demander, par exemple, les questions du prestige du latin et de l'anglais, parce que le manuel paléographique, ils disent encore que on pense que le prestige de latin est peut-être plus fort que le prestige d'anglais. Mais dans ce cas, comment peut-on faire une comparaison entre des écritures différentes si les textes sont différents? Et quelle signification ont ces différences entre les écritures? Peut-être d'utiliser les allographes différents veut dire quelque chose, les éléments de style, quelque chose d'autre. C'est difficile encore. Et encore la question d'apprentissage. J'imagine que d'utiliser les allographes différents, c'est assez facile, sans un apprentissage particulier. Peut-être pour les éléments de style, c'est plus important. Mais c'est encore difficile de dire. Parfois, c'est très évident, comme l'exemple ici, c'est le deuxième siècle. Pour moi, c'est très clair que cette scribe, il connaît très bien d'écrire en latin, mais pas tout en anglais. J'imagine qu'il était un scribe normand, un scribe français. Donc pour écrire en anglais, il a utilisé les formes, les allographes, juste, mais pour moi, c'était pas facile pour lui de décrire comme ça. Donc pour moi, c'est assez évident ici qu'il a commencé d'écrire en latin et de temps en temps, il a écrit en anglais. Mais pour le scribe anglo-saxon, ce n'est pas du tout si évident. Ce n'est pas évident s'ils ont commencé avec le latin ou l'anglais, le vernaculaire. J'ai essayé aussi de faire des comparaisons entre les formes par le même scribe. Par exemple ici, ça c'est le logiciel Digipel encore. On peut prendre les formes, les images des lettres et les mettre au même taille et faire des comparaisons entre eux. Par exemple, ici, le B en latin, le B en vernaculaire, les différences sont assez évidentes, mais les corps sont presque les mêmes. Le même ici, je ne peux pas dire. Je sais que celui-ci, c'est de latin et c'est d'anglais, mais ils sont bons. Vraiment le même. Dans ce cas, peut-on dire vraiment que l'écriture en latin avait un prestige plus haut qu'en vernaculaire? Je ne pense pas. Donc, ça, c'est une autre question. C'est plus ou moins le même avec les autres lettres. Donc, c'est received you, comme on dit. C'est pas forcément si évident, je pense. On peut faire une chose similaire avec le AMP. Ceux-ci sont tournés à gauche quand il écrivait en anglais, mais en latin, ils sont droite et avec un petit pied. Et on peut voir la même chose tourné à gauche dans le vernaculaire. C'est une chose plus souvent dans le deuxième siècle, la deuxième moitié, pardon. Et le fond de S avec pied, c'est presque jamais utilisé. Mais pour le P, c'est l'inverse, l'autre côté. C'est toujours avec le pied, et pas souvent avec l'ampe tournée à gauche. Pourquoi? Parce que je pense que en latin, P et Q, ils sont les seules lettres qui ont le amp. Mais en le vernaculaire, il y a des autres lettres comme S, F, etc. Donc, quand les scribes écrivaient le S, le R, en vernaculaire, ils ont tourné les R. Et quand ils ont écrit le P, même en anglais, ils ont utilisé la forme de Caroline, en quelque sens, la forme droite avec le pied. Pour finir, on peut faire une comparaison des traces, une forme encore. Ça, c'est une petite vidéo. Pour dire, par exemple, c'est une autre forme de polygraphisme, peut-être le minuscule et majuscule. C'est encore difficile de faire les comparaisons, mais on peut, avec le logiciel, comme ceci, on peut voir que les traces sont très très proches. C'est, je pense, très évident qu'ils sont décrits par le même script. C'est encore cette question de preuve, au moins de montrer les arguments. Donc avec le logiciel assez simple comme ceci, c'est assez facile de faire ça. C'est la même chose ici. Et encore, c'est un autre exemple. Pardon. J'ai perdu mon... Voilà. Ici, les elements of style encore. On peut faire comparaison entre le triangle et la forme ici pour voir qu'ils sont tellement proches. Et le pied aussi. Donc, même si les allégras sont différents, même s'ils sont minuscules ou majuscules, on peut faire cette comparaison quand même. Pour cet exemple avec la même trace, la même forme, c'est plus facile. Visiblement, pour le grec, l'hébreu, c'est beaucoup plus difficile, je dirais. C'est proof of concept, on dit, pour faire la comparaison entre les écritures différentes et les principes en anglais, le script anglo-saxon du XIe siècle. Nous avons un corpus assez grand pour faire les comparaisons comme ceci. Parfois, on connaît le script, on peut être sûr que c'est le même script. Donc, on peut commencer à créer une méthode de comparaison comme ceci. Il y a beaucoup de faire encore, sans aucun doute. Et certains de vous ont vu déjà des questions comme ceci. Parce que quand on crée une base de données d'écriture, c'est assez facile pour une écriture, un alphabet. Mais quand on commence d'avoir le polygraphisme, il devient beaucoup plus difficile, beaucoup plus compliqué. Parce que, par exemple, comme ceci, je veux le mettre dans ma base de données. Bon, c'est la lettre M, non, c'est évident, c'est pas si difficile. Mais non, en fait, c'est le M tourné utilisé comme plus ou moins le sigma utilisé comme plus ou moins le E. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je fais pour mon base de données? C'est pas évident. Il y a beaucoup d'exemples comme si l'ambiguïté devient beaucoup plus grande, beaucoup plus difficile. Multiforme, multivalue. On peut continuer, etc., etc. Donc, les questions méthodologiques de polygraphisme, moi, je pense qu'ils sont très, très, ils sont très difficiles, très intéressants, mais peut-être les fondations de la polygraphie, il faut changer un peu, peut-être pour le polygraphisme, je pense au moins. Mais j'ai utilisé beaucoup plus de temps, donc je vous remercie.